Vous écoutez
RMC.
On disait, ça serait pas mal de voir l'effectif et avoir une autre flèche à son arc.
Celle-là, vous êtes nombreux.
Elle était horrible.
Troisième sélection en équipe de France demain pour Mike Maignan, gardien d'AC Milan.
Oui.
Une troisième sélection qui te rend heureux, Jonathan.
Bah, je pense que c'est la logique sportive qui est respectée. Alors, effectivement, si on regarde froidement la saison d'Hugo Lloris, c'est 38 matchs sur 38 possibles, 100% des minutes jouées, 16 clean sheets. C'est quand même des statistiques qui sont largement honorables. Et c'est, on peut pas dire que ce soit un mauvais gardien. On peut pas non plus se plaindre d'un déclin des performances d'Hugo Lloris. Mais de réclamer le fait que Mike Maignan soit définitivement installé et dès maintenant au poste de titulaire en équipe de France, ce n'est pas du fait du niveau d'Hugo Lloris qui serait décevant. C'est simplement du fait d'avoir dans le réservoir français un gardien qui est stratosphérique, un gardien qui enchaîne son second titre de champion après le titre glané à Lille. Il glane le titre à Milan deux fois avec des équipes qui n'étaient pas censées, qui n'étaient pas programmées pour être championnes de leur championnat respectif. On voit clairement l'impact positif qu'il a eu dans la qualité de ces équipes là et c'est pas simplement un impact sur le terrain, c'est aussi un impact dans le vestiaire. On a eu des échos très positifs sur son comportement, sur le leadership qu'il peut dégager sur sa défense, sur la confiance qu'il peut inspirer aux joueurs qui se trouvent devant lui. Et pour ces raisons-là, moi, je n'ai rien, encore une fois, contre Lloris, mais je pense que quand tu as un vrai talent, comme c'est le cas pour Mike Maignan, il ne faut pas attendre, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur les 6 mois qui restent avant de nous amener vers la Coupe du Monde. Hugo Lloris, certes, a fait une saison de très bon niveau, mais aura 35 ans. Il a 35 ans, il aura 36 ans à la fin de l'année. Et moi, je pense qu'il faut absolument éviter de se retrouver dans une espèce de situation un petit peu psychodramatique, comme on avait pu avoir avec Grégory Coupet et Fabien Barthez. Alors évidemment, les deux joueurs n'ont pas le même tempérament. Je pense que ça pètera pas de la même manière. Je pense pas que Mike Maignan refusera de faire une randonnée ou je ne sais quoi lors du stage d'entraînement.
Ou une Bernard Lama, Fabien Barthez.
Ou une Bernard Lama, Fabien Barthez, évidemment. Mais je pense simplement, et mon avis tranché va être très court et très simple, c'est que quand t'as un joueur aussi exceptionnel que Mike Maignan, il doit être titulaire. Malheureusement, c'est un poste où il y a juste une place sur le terrain. Et avec tout le respect que j'ai pour Hugo Lloris et pour son rôle de capitaine, je pense d'une part que l'équipe de France y gagnera sportivement, et je pense d'autre part que ça sera pas compliqué de trouver un capitaine qui aura un impact au moins aussi important qu'Hugo Lloris sur le terrain.
Kevin, Maignan titulaire dès maintenant, on met Lloris sur le banc?
Moi, je pourrais pas rajouter grand-chose à ce que vient de dire très justement Jonathan, parce que moi, je trouve aussi qu'il faut pas tout le temps attendre. Certes, tu as un gardien qui est Hugo Lloris, qui est excellent, mais tu as un gardien qui est plus qu'excellent du côté de Mike Maignan, qui dégage quelque chose, qui est beaucoup plus moderne. Didier Deschamps, on a l'impression qu'il veut jouer, si on reste vraiment sur le foot technico-tactique, tu as un entraîneur qui veut un peu changer de style. On voit qu'il veut être plus protagoniste, qu'il veut avoir le ballon, qu'il veut ressortir de derrière. Et encore une fois, ce n'est pas critiquer Hugo Lloris que de dire que Mike Maignan est un des meilleurs gardiens au monde, au jeu au pied, derrière Ederson et...
Alisson,
Et Neuer, c'est Mike Maignan. Et dans pas longtemps, ce sera lui qui sera devant ces deux-là. Il a un coup de pied exceptionnel. Il a un très bon jeu au pied. Il lit très bien. C'est un vrai gardien moderne.
Sortie aérienne, Kev.
Les sorties aériennes, il est excellent. Non, aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur gardien français. Jonathan vient de dire, t'es pas champion avec Lille, avec la meilleure défense du championnat, champion avec le Milan, avec un record de clean sheet encore une fois. Mais ce mec-là, c'est une araignée. Il est impressionnant.
Et tu sais, je voulais pas le dire parce que ça faisait, je voulais pas, j'ai beaucoup de respect pour Hugo Lloris, mais faut reconnaître une chose, c'est que Hugo Lloris, dans ses saisons, même s'il fait des très belles saisons, il y a toujours des boulettes qui traînent. Il y a toujours dans les compétitions des boulettes. On l'a vu même en finale de la Coupe du Monde, elle est passée un petit peu inaperçue parce qu'au final, c'était une victoire éclatante. Mais, j'ai aucun souvenir alors, peut-être un avant, mais sur ces 3-4 dernières saisons, je ne pense pas que Maignan ait fait une seule boulette.
Vous êtes plutôt d'accord là-dessus, Kevin et Jonathan. On a Amaury, supporter des Bleus, qui est avec nous au 32-16. Salut Amaury.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'after. Tu as entendu Kevin et Jonathan qui sont d'accord. Est-ce que toi aussi, tu sors Lloris, le capitaine maintenant? Tu mets Maignan à sa place?
C'est compliqué. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que dit Jonathan sur les performances des deux gardiens aujourd'hui et sur les niveaux... Le niveau de chacun, le problème, c'est que comme vous l'avez dit, le poste de gardien, c'est quand même un poste particulier. Si je dois donner la réponse de Deschamps aujourd'hui, je pense qu'on la connaît tous et ça va pas bouger. Et le problème, c'est aussi dans le groupe, parce que on parle quand même de l'équipe nationale, c'est quand même différent du club où tu vois beaucoup de changements de gardiens comme ça, en fonction de la saison et en fonction des performances de chacun. Alors que là, en équipe nationale, quand il n'y a pas non plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mignon est quand même au-dessus, mais c'est pas comme ce qu'on a pu voir avec Giroud qui perd sa place définitivement quand Benzema revient, où il y a un écart un peu plus important. Je pense que si Giroud avec Benzema, l'écart était plus faible, Deschamps aurait continué et aurait maintenu Giroud parce que c'est un peu lié, parce qu'il est champion du monde, parce que il a quand même réussi à faire des performances. Donc je pense que c'est très compliqué de changer un aussi grand taulier quand l'écart de niveau n'est pas non plus abyssal.
Et d'ailleurs, Amaury, Deschamps, là on en parlait tout, mais en vrai, il le fera pas.
Non,
c'est pas Deschamps.
Non, non,
c'est pas Deschamps, mais
bien sûr.
Et je voudrais rajouter aussi sur.
Sûrement,
il faut pas oublier qu'en 2018, Mandanda fait une super saison. Et avant la Coupe du Monde 2018, il y avait quand même eu des pas aussi grands qu'aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais j'avais quand même beaucoup entendu de beaucoup de personnes, notamment parce que Lloris, effectivement, il avait pu faire quelques boulettes en club et qui voulait Mandanda pour la Coupe du Monde.
Amaury, je doute que la saison de 2018 de Mandanda, c'est un sujet que je maîtrise relativement bien. Mais malgré cette très belle saison, il y avait quand même très peu d'écart entre les deux en termes de niveau. Hugo Lloris qui avait fait une saison peut-être un petit peu en deçà de ses standards habituels. Mandanda une saison exceptionnelle. Bon, ça fait qu'au final, c'est bonnet blanc. Là, très franchement, j'insiste sur un point. Je pense qu'on a que si tu mets Mike Maignan, tu passes deux steps en plus. Ouais, quoi.
Les gars, alors moi il y a un truc.
Après, c'est
sportivement.
Amaury et les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors peut-être sportivement tu gagnes un peu avec Maignan, mais est-ce que tu gagnes autant tout ce que tu perds en stabilité, en expérience, en vécu de Lloris avec l'équipe de France?
Il a 26 piges, il est double champion. Maignan,
c'est ça aussi les gars.
Il a bien deux titres, je suis d'accord. Mais Lloris, il n'est pas notamment perdu son niveau. Et puis, c'est champion du monde. Et aussi, faut pas oublier.
D'accord. Mais Benzema, Giroud à la place de Benzema, les gars.
Non, mais les gars, Hugo Lloris, il est champion du monde. OK. Mais il a gagné quoi en club, Hugo Lloris?
Bah, non, en club, il a pas
gagné.
OK.
Non, même pas.
Ah, d'accord.
Non, mais les gars, on parle de 10 ans de carrière, là, quand même. On parle d'un gardien qui, en 2 ans, vient d'être champion de France et champion d'Italie, deux des plus grands championnats. Et on parle de, si tu veux parler de palmarès, on peut parler d'Hugo Lloris. Il a gagné une Coupe du Monde, c'est vrai, sur un mois. Mais l'autre, il a déjà gagné deux titres. Je sais même pas s'il en a pas un, peut-être avec le PSG sur le banc, non, peut-être pas.
Si, je sais pas.
Mais moi, c'est vraiment sur l'angle palmarès, quand je parlais de ce qu'a fait Lloris, c'est plutôt pour dire le seul bémol sur Maignan, c'est que si tu le mets aujourd'hui en titulaire en équipe de France, pour lui, ce changement-là, mine de rien, être titulaire en équipe de France, c'est pas pareil. Quand ça peut être quelque chose qui peut être compliqué de commencer direct, de passer à même pas.
Mais il a remplacé. Amaury, j'entends ce que tu dis, mais dis-toi qu'il a remplacé Donnarumma comme si de rien n'était. Donnarumma, le mec, c'était une statue quand même à Milan, ce qu'il avait fait, formé au club, etc. Il l'a remplacé en deux mois. Johan Crochet disait déjà qu'on avait oublié Donnarumma.
On va aller plus loin. C'est que là, grosso merdo, il y avait des rumeurs à la fin des championnats en disant que Donnarumma était potentiellement sur le marché. Je pense que tu fais un sondage du côté des supporters de Milan, il y en a aucun qui souhaite son retour. Hein.
On va écouter Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse justement sur la titularisation de Mike Maignan demain à la place d'Hugo Lloris.
Que Mike Maignan ait un très bon jeu au pied, oui, c'est pas à l'encontre d'Hugo, c'était déjà prévu en début de semaine. Hugo a été sollicité sur tous les matchs, à partir du moment où il y a 4 matchs, il y en avait eu 3, c'est l'occasion aussi de pouvoir répartir, comme moi je vais le faire, et je vous l'ai dit avec les joueurs.
Bon, outre le fait qu'il galère à le prononcer, il explique là que c'était prévu et que Lloris sera la Coupe du Monde, on est d'accord?
Oui, non, peut-être qu'il sera titulaire à la Coupe du Monde. Ce sera en aucun cas un scandale. Mais nous, on peut quand même donner notre avis sur celui qu'on trouve le meilleur gardien français à l'heure actuelle.
Le meilleur, il n'y a pas de discussion, ça c'est sûr. C'est le problème.
Tu sais, Amaury, tu parlais tout à l'heure d'Olivier Giroud. Moi, je suis pas sûr que Olivier Giroud, ce soit vraiment juste qu'il soit pas dans le groupe de l'équipe de France, tout Karim Benzema qu'il est.
Mais je te parle de titulaire.
Mais bon.
Mais Amaury, tu te trompes, je pense, il me semble. Ah, mais c'est Amaury, c'est notre ami lyonnais.
Oui.
Est-ce que tu veux pas, comment il s'appelle, le niçois, Melvin Barthes, tu le veux pas en équipe de France aussi? Non, je te charrie. Parce qu'on vient de capter que c'était toi.
De Théo, de Théo il y a quelques jours.
Sur le réclamer pour leur jeu.
Non, mais Amaury, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu te trompes sur un point. C'est que quand t'as dit si on met Maignan à la place de Yeris, on gagne pas tant que ça. Je t'assure, je pense qu'il y a une différence abyssale en termes de niveau.
Non, j'ai pas dit qu'on gagnait pas tant que ça. C'était pas dans ce sens-là. C'était plus pour moi, si je suis sélectionneur, c'est lui que je mets. Le problème, c'est que mine de rien, pour lui, passer de second gardien en équipe de France à titulaire à la Coupe du Monde. Parce que tu me parlais du club. Le club, c'est quand même différent de t'intégrer dans un club sur une saison que de passer de remplaçant d'équipe de France à titulaire direct dans la plus grande compétition au monde. C'est juste ça. Et c'est juste, je pense, la réflexion. Mais
oui, tu as raison. Et puis, de toute façon, dans toutes les sélections, une fois que tu as été champion du monde, c'est pas pour rien qu'il y a très peu de sélections qui arrivent à performer la Coupe du Monde suivante. C'est parce que justement ce phénomène d'avoir des cadres qui sont irremplaçables, parce que tu te dis toujours ah oui mais ils ont été champions du monde, ah oui mais il y a un respect, ah oui mais ils ont l'expérience, ah oui mais ils peuvent le faire, pourquoi pas, tout peut arriver dans le football, ils peuvent aller chercher une deuxième Coupe du Monde comme ça sur un malentendu. Mais honnêtement, tout le monde sera d'accord pour dire que normalement s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde de remporter en 2018, parce que c'est un peu idiot, mais on va dire que sur le potentiel et sur le talent à l'instant T, il y a beaucoup de joueurs qui sont titulaires aujourd'hui en équipe de France qui ne le seraient pas.
Alors après, attention, parce que le troisième gardien, il fait peur. Hein. Vous vous rappelez qui c'est?
Oui, c'est vrai.
Raoula.
Ouais, c'est Raoula, ouais. Ah, mais...
Merci à Maurice, en tout cas, d'être passé ce soir dans l'after. Passe une bonne soirée. Et,
Salut à
bientôt. Et bon courage pour la saison prochaine. Supporter lyonnais. 23h36, l'after continue avec Jonathan, avec Kevin. On aura l'occasion de voir Mike Maignan à l'œuvre demain, justement, et de voir, de juger sur pièce si l'écart est aussi abyssal avec Hugo Lloris.
Imagine, il nous fait une Sébastien Frey, on passe bien pour des idiots.
Ou une Lionel Letizia.
Non, pas du tout, parce que moi, je pense que même s'il venait à faire une erreur, Hugo Lloris en a fait. C'est vrai que Maignan nous habitue pas à faire de grosses bourdes comme ça, mais ça arrive à tous les gardiens.
Bien sûr.
Et pour moi, au vu de ce qu'il a montré sur les dernières saisons, ça doit être le gardien. Après la Coupe du Monde, il n'y a plus de débat, ça doit être le gardien sur les 5-6 prochaines années.
Mais même avant.
Ah oui, on est la différence. Enfin, avant, tu le laisses quand même Lloris à la Coupe du Monde, alors que Joe.
Non, moi je le laisse pas, mais on sait tout ce qui va y être.
Voilà pour l'équipe de France ce soir. Rendez-vous demain 20h dans l'after quand on aura la compo officielle. Mais Maignan sera effectivement dans les buts. Ce soir, on va parler, les gars. Alors, c'était pas prévu à la base, hein, parce que c'était un petit match qui avait lieu aujourd'hui, là, un petit Argentine-Estonie, qui s'est terminé par une victoire 5-0. D'ailleurs, pas de quoi forcément y revenir ce soir dans l'after. Mais quand on voit déjà la feuille de stats, 5-0 pour l'Argentine, quintuplé de Lionel Messi. Je vais vous donner la parole là-dessus, les gars, Kevin et Jonathan, mais on est avec Pablo, qui a fait le 32-16. Pablo, qui a vu ce match. Et tu étais à Wembley pour la finalissima.
Génial.
Contre l'Italie mercredi, c'est ça? Salut Pablo.
Bah oui, j'ai pas trop eu l'occasion de vous appeler la semaine dernière. Parce
salut
que...
Pablo.
Salut.
Alors, toi, t'es supporter de quelle équipe, Pablo?
Moi, je suis supporter en club de Lens et en sélection. Ma sélection, c'est la Bolivie. Mais je suis vraiment beaucoup le football sud-américain.
Alors, ce qui est parfait, c'est que tu vas avoir un œil tout à fait objectif pour juger le Messi que tu as vu, de tes yeux vus, à Wembley mercredi, celui que tu as vu contre l'Estonie aujourd'hui inscrire ce quintuplé, et celui que tu as suivi tout au long de la saison en Ligue 1, contre Lens notamment.
J'étais au stade à Lens PSG, de toute façon, dès les premières minutes à Wembley, on a bien vu que c'était pas le même Messi. Il était déjà tout de suite sur tous les ballons, des choses qu'on n'a pas vues en Ligue 1 toute l'année. À Wembley, l'Argentine était clairement à domicile. Hein. Sauf que si dans le stade, on avait l'impression d'être rempli d'Argentins. Et il y a une ambiance autour de la sélection qui traîne depuis des moments. Un moment où les Argentins, je les trouve toujours très très optimistes, un peu par excès quand une coupe du monde arrive. Mais là, pense que ça va être difficile de ne pas les mettre dans des... dans
Pablo,
de favoris.
Sur la prestation de Messi en particulier, parce que tu vois, nous, on voit beaucoup la Ligue 1, on voit énormément de matchs, l'Argentine, un peu plus compliqué, tu dis un Messi différent. En quoi le Messi que tu as vu avec l'Argentine, à Wembley, qu'est-ce qui est différent concrètement?
Dès les premiers ballons, on l'a vu se battre sur, faire des, il était dans tous les duels, il récupérait des, on l'a à peine vu, moi je pas spécialement eu l'impression de le voir marcher sur le terrain comme on a l'habitude de le voir habituellement cette saison en championnat.
Exactement. Tu l'as pas vu courir quand même?
Et si?
Carrément, non.
Bah, si. Oh. Et pour récupérer des ballons, pas uniquement quand il était,
En gros, il a joué.
Il a joué. Il y a quand même plusieurs actions. Alors, notamment contre l'Italie, lors du match précédent, où il venait carrément au niveau de Depaul et Rodriguez pour à la récupération, quoi. C'est, on l'a vu se battre sur beaucoup de ballons. Les courses à haute intensité, ben, il y en avait plein. On l'a très rarement vu marcher. Et sur les deux matchs, très franchement, t'as l'impression que c'est, son frère, le frère jumeau du mec qui est au PSG. En entrant, je disais, c'est bizarre, l'Argentine, c'était le frère jumeau du mec du PSG. Ouais. Mais sauf que c'est le frère jumeau bon. Et, très franchement, on le disait en préambule de l'émission, si je suis supporter du PSG, ça fout un peu les boules. Alors, il faut nuancer tout ça. Et ça, la nuance, c'est que il a un rôle dans cette équipe d'Argentine qui est quand même très, entre guillemets, différent. Il est totalement libre.
C'est un match où on a une
impression de voir un Messi
qui justifie ses différents ballons d'or au final. Hein, ce qui c'est bizarre à dire comme ça, mais sur l'année qui vient de se passer, on se demande où il était passé.
Mais après un quintuplé contre l'Estonie, il pourrait l'avoir encore. Hein,
ouais. Mais je vous dis, en fait, on va en revenir à un débat qui est très parisien. C'est que je pense que de jouer avec les trois, Mbappé, Messi, Neymar, c'est pas possible. Si tu veux mettre Messi dans les meilleures conditions. Parce qu'on a vu contre l'Italie, bah, il jouait derrière l'attaquant. Mais dans l'axe, quand même très très libre. Et là, dans ce match contre l'Estonie, encore une fois, il était dans l'axe, il était ultra libre, il jouait quasiment en faux neuf. Donc, ça pose le problème de savoir au Paris Saint-Germain comment tu fais pour le mettre dans les meilleures dispositions. Et on a vu que là où il traînait le plus son âme en peine, même s'il a fait quelques passes décisives, etc., c'est parce que souvent il était un petit peu obligé de s'exiler sur un côté. Et quand t'as trois joueurs qui ont cette tendance assez axiale, en la personne de Mbappé, Neymar et lui, ça pose des questions. Ça pose des questions sur comment tu fais, parce que le Messi qu'on voit là, c'est-à-dire un Messi libre, alors je pense qu'il y a la motivation, mais aussi la mise en place tactique, c'est dommage de ne pas l'avoir au PSG.
Et en tout cas, les performances de Messi avec l'Argentine, ça met à mal la théorie du Messi cramé, il a 35 ans, c'est fini.
Complètement.
Mais c'est la motivation et la disposition, le schéma tactique. Je le dis, je pense que la motivation, elle est décuplée avec l'Argentine et que sa dernière mission, c'est la Coupe du Monde. Et je sais plus qui avait cette expression-là, je crois que c'est Nico Jamain, il disait le PSG, c'est sa salle de sport géante. Il a raison. Mais il y a aussi, c'est Daniel,
son thème de course.
Il y a aussi, je suis désolé, tactiquement, c'est pas possible de le faire jouer comme il joue au PSG. Si tu veux vraiment essayer d'en tirer quelque chose,
c'est pas de la faute du schéma tactique, c'est Messi ne court pas. Je veux dire, même s'il jouait arrière gauche, il pourrait courir.
Là c'est flagrant. En fait, ce qu'il faudrait, alors je sais que certains n'aiment pas ça, mais il faudrait avoir les données GPS de Messi avec le PSG et avec l'Argentine. Et je peux te dire que juste sur les sprints à haute intensité, mais c'est le jour et la nuit. Donc il y a un moment, alors. Faudrait les voir, parce que des fois, on peut être surpris, mais quand même, t'as quand même l'impression visuelle que c'est pas le même joueur. Et encore une fois, je l'ai dit hier, je le répète, je ne lui en veux pas de favoriser son pays. Il arrive en fin de carrière, son rêve, c'est pas de gagner la Ligue 1, son rêve, c'est pas de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, son rêve, c'est d'être champion du monde avec l'Argentine, parce qu'il compléterait parfaitement sa légende. Je peux l'entendre et c'est tout à fait logique. Mais il y a un moment, tu as un minimum de respect à avoir quand tu as le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules et un minimum d'effort à fournir avec et sans le ballon. Avec le ballon, tout le monde peut rater des choses, même Messi. Mais sans le ballon, faire un minimum d'effort quand ton équipe est en difficulté.
Là, il les a fait. Et voilà, tu sais, par contre.
C'est flagrant quand même.
J'ai un dernier mot sur le PSG. Donc il y a des rumeurs selon lesquelles Neymar aurait été placé sur la liste des transferts. Écoute. Moi, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, la perspective de voir Kylian Mbappé finir sa mue et vraiment être installé au poste de numéro 9 avec Lionel Messi derrière libre, ça me donne quand même un peu envie si c'est lui Lionel Messi qu'on voit là.
Ouais, et peut-être pour les supporters parisiens, peut-être un peu d'optimisme à avoir si c'est ce même joueur qui revient à Paris la saison prochaine. Merci Pablo en tout cas d'avoir fait le 32-16 et d'être passé dans l'after ce soir.
Salut Pablo.
Bonne soirée à toi et à très vite. 23h44, l'after continue en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty, plus Fred Hermel et Julien Laurence. Dans quelques secondes, il y avait beaucoup d'autres matchs internationaux. Ce soir, on reviendra sur le match nul de l'Espagne en République tchèque de partout. Et puis sur le dernier billet européen pour la Coupe du Monde remporté par le Pays de Galles aux dépens de l'Ukraine. L'after revient dans un instant, tout de suite.
L'after foot, 20h minuit sur AMC.